Deutsche Welle. Droits et libertés.
Un génocide perpétré aura déjà ôté à l'humanité quelque chose perdu à jamais. Un génocide, quelle qu'en soit l'ampleur, est toujours un génocide de trop.
Le souvenir du génocide de 1994 au Rwanda nous habite cette semaine encore. Après les témoignages de deux rescapés, nous nous pencherons aujourd'hui sur la difficile prévention du crime des crimes. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine qui vous est proposé par Marie-Ange Piron. Depuis le 7 avril dernier, la commémoration du génocide des Tutsis donne lieu au Rwanda à de nombreuses cérémonies. Elle est aussi l'occasion, dans le reste du monde, de déclarations qui ont souvent un goût de déjà entendu. On dénonce l'atrocité de ce qui s'est passé, on use et on abuse de la fameuse formule incantatoire « plus jamais cela ». Comme l'a rappelé opportunément le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, après le génocide des Juifs par les nazis, après la Seconde Guerre mondiale, donc, le monde avait déjà fait cette promesse, plus jamais cela. Promesse non tenue, on le sait. Adama Dieng, que vous avez entendu en introduction de ce magazine, est conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. Auparavant, il a effectué 3 mandats de greffier au Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, en Tanzanie.
Une 20aine d'années après le génocide rwandais, rien n'évoque avec autant d'horreur et de révulsion que le souvenir du massacre généralisé et systématique de près d'un million de personnes qui ont été tuées en raison de leur appartenance ethnique pendant ces 100 jours funestes du printemps 1994. Et c'est pourquoi il est éminemment important que l'ensemble des pays du monde, et aujourd'hui quand on voit ce qui se passe en Afrique, je dirais qu'il est important que les pays africains retiennent et assimilent les leçons du génocide rwandais.
Ne pas oublier les génocides passés est peut-être la première des conditions pour prévenir d'autres génocides, dans l'idéal en tout cas. C'est ce que va nous expliquer Assumpta Mugiraneza. Elle est historienne, psychosociologue et elle a fait un gros travail de recherche sur les discours de haine, en comparant par exemple les propos des Hutus extrémistes rwandais à ceux d'Adolf Hitler en Allemagne.
Chaque génocide a ses spécificités et moi je suis de l'école comparatiste, mais comparer ne doit pas être réduit au chevauchement des aspects qu'on trouverait qu'ils se ressemblent. Comme le dit Hannah Arendt, il ne s'agit pas de rabattre pareil. Ce qu'il faut, c'est d'analyser ces mécanismes pour mieux singulariser chaque génocide. Une fois qu'on a compris ce qu'il y a de commun, mais qu'on a saisi aussi ce qu'il y a de spécifique, de singulier, il faut oser les décortiquer encore plus pour les rendre accessibles aux écoles, les écoliers, les lycéens, mais aussi les universités, pour trouver le langage qu'il faut pour les faire saisir aux politiques, parce que le politique a son rôle là-dedans, mais aussi au-delà du politique et de l'institution de l'éducation, il faut parler aussi à la population des pays qui ont vécu. Trouver le bon équilibre entre le besoin de penser l'avenir, mais aussi entendre que les personnes, les populations qui sortent d'un génocide ne peuvent pas tout de suite attraper le train de la prévention. Il y a les victimes d'un côté qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on les entende cette fois-ci, qu'on comprenne que leur rapport au temps, leur rapport au monde a changé. De l'autre, il y a souvent les bourreaux, ou bien ceux qui ont laissé faire, qui souvent sont travaillés par le sentiment de culpabilité. Et s'il n'y a pas un travail de la société pour rappeler ce crime, a tendance à se muer à une sorte de déni, une tentative d'oubli qui parfois peut s'avérer très active, risquant même de détruire les espoirs de paix retrouvée ou carrément la répétition.
Ne pas oublier donc, mais aussi et surtout étouffer dans l'œuf toute velléité de discrimination.
Le génocide n'est pas une fatalité, ce n'est pas une affaire d'un groupe contre un autre, c'est un crime contre l'humanité, c'est une affaire qui nous concerne au-delà d'une génération, au-delà des frontières nationales, et qu'à partir de là, il est du devoir de chacun de se demander qu'est-ce qui s'est passé réellement, et si on a la chance que ça ne soit pas passé chez nous, comment aurions-nous pu nous comporter si on avait été à la place de ces autres personnes? Et comme ça, faire en sorte que les leçons d'un endroit, les leçons d'un crime contre l'humanité soient intégrées et servent non seulement à prendre conscience, mais aussi à imaginer les mécanismes d'éducation à, dans le sens le plus ouvert du terme, pour savoir, pour être conscient, pour éviter notamment les discours de discrimination ou les comportements discriminatoires, pour éviter un usage trop excessif des stéréotypes, pour dire au fait non à toute tentative de discrimination par rapport au genre, par rapport à l'ethnie supposée, par rapport à la religion. Parce que quand on ouvre la porte à une discrimination qu'on pense légitime, on finit par légitimer la discrimination et le crime qui s'ensuit.
Adama Dieng, lui aussi, voit dans la discrimination le premier pas vers un possible génocide.
Il faut partir d'un constat, c'est que les pays qui sont exposés au risque de génocide ont souvent une histoire faite de discrimination et d'autres violations des droits de l'homme à l'encontre de tel ou tel groupe bien déterminé. Il y a un devoir de déconstruire les mécanismes génocidaires. Quand on commence à déhumaniser l'autre, comme l'ont fait les Hutus extrémistes qui ont planifié le génocide au Rwanda, qui estimaient par exemple que le Tutsi est un virus, tout comme Hitler disait que le juif est un bacille dans le corps, ou des exemples de noms d'animaux qui étaient prêtés à des Tutsis. Donc autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, une leçon qui est la plus importante, c'est de faire en sorte qu'on bannisse la discrimination contre quelques groupes que ce soit et sous diverses formes. Parce qu'en fin de compte, c'est à partir de la discrimination même qu'on bâtit les germes du génocide.
Les exemples de discrimination, de discours de haine restent pourtant omniprésents, en Afrique notamment, où les luttes de pouvoir sont là pour les encourager avant de les exploiter. Adama Dieng s'inquiète tout spécialement pour la situation en Centrafrique.
Il y a cette justification sans détour aussi de la pratique discriminatoire qui a toujours de quoi préoccuper, tout comme l'apologie et la tolérance du discours de la haine contre tel ou tel groupe, comme on le voit aujourd'hui avec les anti-Balaka en République centrafricaine qui s'en attaquent aux musulmans. J'ai vu récemment un programme intitulé « La chasse aux musulmans ». Et quelle horreur, je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, que des hommes puissent aller jusqu'à dire « je suis prêt à tuer même des bébés de 2 mois pour pouvoir exterminer des musulmans ». Je crois qu'il faut là que quelque chose soit fait. Il faut que les Européens qui avaient envisagé, par exemple, de déployer des troupes, seulement 1000 soldats, et qui aujourd'hui encore prennent les pieds, est-ce lié au fait qu'il y avait la crise ukrainienne ? Je crois que tout simplement, nous devons embrasser l'humanité et il faut aujourd'hui plus que jamais que des mesures soient prises en République centrafricaine, que des troupes soient déployées et qu'on arrête la descente aux enfers dans ce pays.
Mais Adama Dieng tient aussi à insister sur la face cachée du travail de prévention. Il déplore que personne n'en parle, mais il est vrai qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure.
Dans la substance de la prévention, il y a quelque chose d'impalpable, donc d'irréel. La prévention réussie génère le non-événement. Elle nous prive ainsi du substrat factuel qui serait la preuve de son propre succès. On peut bien se souvenir des massacres de Yopougon au début de la crise en Côte d'Ivoire ou des tueries dans l'Ituri en RDC. On se souviendra moins de la mobilisation des acteurs politiques et diplomatiques préventifs qui ont suivi pour éviter leur dégénérescence en génocide. Bon, l'histoire, dit-on, ne renseigne guère sur les chemins non empruntés. Et dans un monde qui est aujourd'hui régi par la pathologie, on célèbre plus le sauveteur qui intervient pour limiter les effets d'un désastre avéré que le bon père de famille prudent et diligent qui fait en sorte que le désastre ne se reproduise plus. Et je crois que l'ingratitude de la tâche de prévention, qui est mon rôle aujourd'hui, n'en amoindrit pas l'importance. Et je crois que comme la patrouille nocturne qui éloigne les malfaiteurs et assure le sommeil tranquille des citoyens qui ne la verront ni ne l'entendront, il y a une multitude d'institutions qui veillent sur la paix et l'harmonie du monde. Et je crois que leur action ne fait pas forcément la une des journaux, mais elle reste essentielle. Et parfois, c'est au prix de leur discrétion qu'elles gagnent en efficacité. Et c'est pourquoi je dis tout le temps, il est aujourd'hui plus que jamais important, comme l'a recommandé le secrétaire général Ban Ki-moon, que nous prenions au sérieux la prévention du génocide pour que l'on puisse éviter de mettre en place des opérations de maintien de la paix parce qu'il serait trop tard, parce que les crimes seraient déjà entamés, comme c'est le cas aujourd'hui en République centrafricaine. Alors que la prévention coûte beaucoup moins cher. Imaginez qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être au moins $1 milliard pour lancer l'opération de maintien de la paix en Centrafrique. Or, si on avait investi très tôt, depuis les premiers signes, avant même qu'il y ait eu le renversement du pouvoir de Bozizé, certainement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
Adama Dieng, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. Ses propos, comme ceux d'Assumpta Mugira Neza, ont été recueillis par Laila Regiaye. Ainsi s'achève ce magazine Droits et Libertés. Merci de votre fidélité. Au micro, Marie-Ange Piron.